Chers lecteurs, bonsoir. Emmanuel Régnier, bonsoir.
Bonsoir.
David, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, on est ravis de vous retrouver ce soir, Emmanuel Régnier, pour la sortie de votre dernier roman, Au bord du lit, publié aux éditions Le Tripode. Alors, quelques mots sur vous avant tout. Vous êtes né en 1971 à Paris. Vous avez mené des études de lettres et un poste d'enseignant qui vous a mené à Lille, en France, où vous avez organisé pendant 2 ans des rencontres et des manifestations autour de la littérature contemporaine. Puis vous passerez 5 ans au Japon, à Tokyo, pour vous lancer dans l'écriture du gothique. On vous retrouve aujourd'hui à Bruxelles. Alors, bien entendu, il y a une multitude de livres qui sont sortis avant de celui-ci, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Au bord du lit. Alors, ce livre est composé de 2 parties. D'une part, dans la première partie, vous nous racontez les derniers jours de Debussy, Claude Debussy, célèbre compositeur de musique et d'opéra, terrassé par un mal qui ne lui permettra pas de terminer son opéra, l'opéra qui est basé et qui reprend l'histoire de la chute de la maison Usher, qui donc est une histoire qu'il a repris de Edgar Allan Poe. Et Edgar Allan Poe, au fait, cette histoire-là, vous la reprenez, cette nouvelle telle qu'elle, dans la deuxième partie. Et à ce moment-là, elle est traduite par Baudelaire. Alors, ce qui nous a surtout plu dans votre livre, c'est que votre écriture est bien définie. Vous entrez en littérature par la voie de l'exigence. Vous ne déviez pas de votre route. Et dans, en fait, cette première partie que vous écrivez et qui raconte l'agonie de Debussy, bien, on retrouve un style très saccadé, haletant justement pour raconter les derniers moments de Debussy, frustré de ne pas être capable de terminer cet opéra qui a quand même mis et qui lui a mis 10 ans à réaliser. Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est que on assiste dans cette première partie donc à la fin de vie du compositeur, et cette fin de vie devient aussi pour vous un prétexte à la réflexion sur l'art et sur la création, parce que à travers Debussy, à travers les souffrances de Debussy, c'est vous-même qui vous racontez, et je dirais que vous nous parlez aussi de la façon dont Debussy voit l'art, le grand art, dans lequel il insiste, Debussy, surtout sur le fait que la musique n'est pas faite pour être écoutée vraiment, qu'elle ne doit pas rentrer dans l'uniformité. Il veut garder cette liberté qui est primordiale pour lui, pour exister. Et donc la deuxième partie du livre, comme je le disais, reprend justement cette nouvelle sur laquelle est basé l'opéra, qui est donc la chute de la maison Usher d'Edgar Allan Poe. Alors voilà, donc c'est là où notre interview commence. David, je te laisse la parole pour les premières questions.
Oui, mais moi j'ai... mais bon, bonsoir, j'ai très heureux
bonsoir, David.
Que vous soyez parmi nous. Pour approfondir ce qu'Anouk dit dans son introduction, moi je me pose la question, c'est pourquoi, et peut-être à quel moment, pourquoi choisir et offrir la lecture de 2 textes? Et est-ce que ces 2 textes doivent-ils nécessairement se lire dans l'ordre?
Je ne sais pas s'ils doivent se lire dans l'ordre. C'est une idée de mon éditeur de mettre la nouvelle d'Edgar Allan Poe à la suite de mon texte, idée que je trouvais très belle. J'ai choisi la traduction de Charles Baudelaire parce que c'est celle que Debussy a lue. En fait, je voulais être au plus près de ce qu'avait lu, vécu Debussy. Donc, ça me paraissait important de prendre cette traduction-là. De la même façon qu'il y a 2-3 références à des poèmes de Poe dans mon texte. Et c'est dans la traduction de Mallarmé. Voilà, parce que c'est celle qu'avait lu Debussy. Donc, c'est celle qui sont dans l'esprit de Debussy. Donc ensuite, savoir dans quel ordre on peut lire les textes, je ne sais pas. Après, moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer aussi un petit peu l'arrière-boutique, à partir de quoi j'avais travaillé. J'ai beaucoup donc travaillé sur la nouvelle d'Edgar Allan Po, La chute de la maison Huchère, je l'ai beaucoup lu, relu, décortiqué, essayé de voir ce que je pouvais récupérer, ne pas récupérer. Et donc, il y a un côté work in progress, quoi, en quelque sorte, qui est offert comme ça avec ces deux textes et le cadeau fait par l'éditeur de la nouvelle d'Edgar Allan Poe.
Quand j'ai lu donc votre livre et après La chute, donc cette nouvelle de la maison Huchère que je n'avais jamais lue, j'ai vu des liens aussi avec Daphné du Maurier quand elle raconte l'histoire de Mandarin de Rebecca. Je ne sais pas si dans la même décrépitude de cette maison qui termine par Maurier, finalement, même si le chef Alfred Desgard, mais il ressentit des liens de cette littérature anglaise, au sort urbanaise et où la maison, en fait, symbolise souvent aussi le mal-être des personnages.
Oh ben, ça me paraît évident que Daphné du Maurier a lu la nouvelle de Poe pour écrire Rebecca. Je veux dire, on peut pas. Très, très beau roman, d'ailleurs, hein, Rebecca, hein, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Là, il était ressorti dans une nouvelle traduction, donc je m'étais lancé. Très, très beau roman. Oui, alors après, moi, c'est aussi mes goûts. Je suis un grand lecteur d'Henry James, par exemple, de George Eliot, de toute cette littérature anglaise, fin 19e, début 20e, qui me fascine beaucoup. Je trouve qu'il y a un climat, il y a une ambiance, Et en fait, ce sont des auteurs qui jouent avec une intrigue qui est très mince. En fait, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que, alors, peut-être aux grandes dames de mon éditeur, hein, je veux dire, c'est pas ce qui m'intéresse en premier, l'intrigue. Il n'y a pas de gros. Il y a une fine ligne directrice. Là, pour Au bord du lit, la ligne directrice, c'est Debussy, Ses derniers jours, et puis les personnages de La chute de la maison Huchère qui viennent le visiter. Ils viennent le voir. Ça tenait à ça. Ça tient à ça, quoi. Et après, moi, j'essaye de faire, comme vous l'avez fait remarquer au début de votre présentation, moi, j'essaye ensuite d'écrire autour de ça. C'est ça qui m'intéresse. J'aime beaucoup ça, écrire, en fait. Et pas simplement pour raconter une histoire. Je vais dire un peu bêtement, et les amoureux de cinéma me pardonneront, mais si vous voulez des histoires, regardez des films, quoi. Et je sais qu'il y a des films où l'histoire est très mince et des très très beaux films. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je fais quand tout d'un coup j'ai vraiment envie d'une histoire, je regarde un film. La littérature va m'intéresser pour d'autres choses, en partie. Ouais, le style, l'écriture, la construction. Je suis très sensible à ça, à la construction d'un texte. Je veux dire, le tour d'écrou d'Henry James, c'est un texte qui me fascine profondément dans sa construction. L'histoire, elle est toute simple, hein. Mais dans sa construction, il arrive à tout faire tenir sur une petite centaine de pages et on est terrifié et ça nous habite et on y revient, etc. Non, c'est du grand art.
Anouk et moi, on a donc saisi, je pense, dans le texte, hein, pas après la lecture, un lien entre une description très crue et extrêmement physique, en fait, de la décrépitude de Debussy. Parce que vous insistez de diverses manières, les excréments.
En fait, c'est presque comique, là, même si c'est tragique, la façon dont il décrit ce cancer du côlon, où au départ il y a des hémorroïdes et donc des fissures, et un peu comme la maison Huchère qui décrépit et il y a des fissures dans les pierres.
Moi, en tout cas, j'ai essayé, je ne sais pas si c'est vraiment comique, mais en tout cas, il y a une espèce d'exagération qui pousse en effet une espèce de, au moins de petit sourire du lecteur par rapport à ce qui est décrit, qui est particulièrement terrible, hein, un cancer du côlon à cette époque.
Mais donc il y a un lien qu'on découvre au fur et à mesure, et quand même assez rapidement, entre la décrépitude physique et la chute de la maison Huchère, qui est décrépit par sa végétation luxuriante. Ça va jusqu'aux pierres de la maison qui se fendent et se fissurent. Est-ce qu'il y a un lien conscient entre ces deux décrépitudes dans le processus d'écriture? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez pensé avant ou vous vous rendez compte pendant que vous écrivez Est-ce que vous voulez parler de ça, au fait?
Oui, bien sûr, je voulais parler de ça. C'est-à-dire qu'en fait, Debussy est une maison et qui tombe aussi en ruine, exactement comme la maison Huchère. Et avec lui, ses amours, ses fantômes, ses fantasmes et tout ce qu'on... Et ses regrets et tout ce qui va avec. Donc oui, il y a ça, en effet. Il y avait chez moi le désir de faire une présentation la plus précise possible, presque médicale, de la souffrance de Debussy, exactement comme un architecte, en quelque sorte, ferait les plans d'une maison, un peu froidement, et simplement. Et puis ensuite, voilà, de faire rentrer la psyché là-dedans, d'habiter psychologiquement la maison et le corps.
En fait, il s'agit presque des mêmes mondes parce et des mêmes idées. Parce que d'un côté, il y a la décrépitude de Debussy qui souffre d'hémorroïdes et donc de fissures. Et puis de l'autre côté, il y a la maison Huchère qui est en train de se fissurer.
Non, bah,
Ça dépend de comment on met le mot dans une phrase, au fait.
Mais bien sûr.
Donc on parle de construction.
Oui. Et puis on va parler des fondements pour désigner les parties intestinales, exactement comme il y a les fondements d'une maison, etc. Oui. Non. Il y avait ce désir de montrer le corps de Debussy à la fin de sa vie comme une maison qui est en train de tomber, de s'écrouler. Et malgré tout, il y a l'esprit qui reste. Il y a cet esprit fort et qui reste malgré tout.
En fait, dans votre histoire, on retrouve un peu les thèmes qui vous sont chers et qui définissent toute votre œuvre, qu'il s'agisse des thèmes de l'inceste, de l'enfermement, de la hantise, des fantômes, des thématiques qui finalement sont les éléments ou les fils conducteurs de votre œuvre. Et puis, je dirais que c'est vrai que le roman, cette fois-ci, est contrairement aux autres, peu considéré par la critique comme autobiographique. Cependant, c'est ce que David et moi on s'est posé. Nous, on se dit que ce texte n'est pas aussi détaché de vous comme écrivain. Pouvez-vous nous dire pourquoi, même si vous nous donnez tort ?
Après, c'est rigolo, c'est qu'en fait, moi j'avais fait j'avais fait une première trilogie en fait qui était composée de Notre Château, Madame Jules et puis une fêlure. Et puis je m'étais dit les thèmes. Abordés, qui étaient les fantômes, qui étaient l'inceste, qui étaient le retour du même, etc. Je ne vais plus en parler. Je vais passer à autre chose. Et puis là, je tenais une histoire avec Debussy, etc. Et en fait, non, ça revient évidemment. La chute de la maison Huchère, c'est une histoire d'inceste, etc. Donc je me suis retrouvé happé. Donc peut-être que le prochain, je réussirai à sortir de ces thèmes.
Mais c'est la même personne qui écrit, donc ça va être...
voilà. Après, moi, je suis assez... Je pense comme Philippe Forest que toute œuvre artistique, hein, pour pas parler simplement de la littérature, est forcément autobiographique. Quoi qu'on fasse. Ou alors, si c'est pas le cas, j'aurais presque envie de dire que c'est pas une œuvre d'art. Donc il y a une part de moi, il y a mes obsessions, il y a mes hantises. Il y a mes fantasmes, etc., qui sont évidemment dedans. Je suis en train d'écrire un nouveau texte autour de la figure de Giacometti, et c'est là aussi. Je le sens, j'essaye de, mais c'est là.
Oui, c'est toujours Emmanuel Regnier qui écrit.
oui, c'est ça. Oui, je pense que c'est toujours et comme je suis pas dans la fiction pure et dans le simple fait de raconter des histoires, forcément, mon écriture, je veux dire, c'est moi et ça se déverse.
Je t'interromps encore une seconde, c'est parce que parler de ce nouveau texte de Giacometti, là aussi, je me dis, c'est pas un hasard, c'est qu'est-ce qu'il y a, c'est un artiste qui cherchait la pureté absolue dans l'art. Un peu comme Debussy.
Ah oui, bien sûr. Si je m'intéresse, alors après on remarque. Hein. Finalement, tout d'un coup, je voudrais faire une espèce de nouvelle trilogie qui serait autour de l'art. Donc, j'avais commencé par la musique avec Debussy, qui est un compositeur que j'aime énormément. Et puis Giacometti, c'est un artiste que j'aime énormément. Je crois qu'en art, il faut être puriste. Hein. Enfin, après. Il y a plusieurs Emmanuel Regnier. Le Emmanuel Regnier enseignant va dire du bien de certaines œuvres que le Emmanuel Regnier écrivain n'apprécie pas beaucoup et avec lesquels il ne se sent pas d'atome crochu, il ne se sent pas concerné. Voilà, après, ça ne m'empêche pas de les étudier pour mes élèves.
Alors, d'après ces correspondances, Si on ne se fie qu'aux correspondances, Debussy est un grand défenseur du grand art. Voilà, on peut en discuter ce que c'est le grand art. Mais il veut se distinguer des autres et ne pas rentrer dans la question de l'uniformité. Et je me suis demandé, on s'est demandé s'il n'y a pas quelque chose là-dedans aussi d'Emmanuel Regnier là-dedans. C'est pour moi, Emmanuel Régnier, pardon, hein, mais pardon pour le compliment. C'est un auteur qui n'est jamais...
Je le prends.
C'est un auteur, pour moi, qui n'est jamais rentré dans des tendances, dans la question des tendances, dans des modes qui voilà, quand on regarde quand même, même timidement, le présent, hein, les modes qui ne sont que dans l'artistique, hein, qui ne sont que l'expression d'industrie, je dis industrie au pluriel, hein, qui présentement joue la morale et par exemple la diversité comme elle jouerait de n'importe quelle autre stratégie dans 2 ans, j'en sais rien. Mais bon, en quoi, in fine, Emmanuel, êtes-vous un écrivain réellement libre? Et par ailleurs, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire être un écrivain libre?
Alors, je me sens en effet un écrivain très libre. J'ai un très très chouette éditeur qui me fait confiance, qui ne me demande pas d'écrire telle et telle chose. J'écris ce que je veux, mais vraiment ce que je veux. Je lui présente, il prend pas, j'ai pas de contrat, il n'est pas obligé de me publier, je ne suis pas obligé d'aller chez lui pour publier. Donc voilà, donc là, il y a une vraie liberté, une vraie liberté, vraiment très forte. Et puis ensuite, oui, j'essaye de... Je ne sais pas si c'est de rentrer dans les modes, comme tu dis, David, mais...
Non, mais j'ai l'impression, j'ai l'impression que vous n'êtes pas un écrivain qui écrit pour que ça marche. Et cette tendance-là m'irrite un peu.
Ah, j'aimerais bien que ça marche, hein, après.
Oui.
Non.
Mais complètement.
Non, mais j'ai l'impression que ça marche, c'est parce que vous êtes allé au bout de ce que vous vouliez.
Ah oui, mais complètement. Je m'estime être un écrivain complètement libre. De temps en temps, ça m'amuse et de me dire, allez, je pourrais écrire aussi un roman best-seller. Je vois comment c'est fait. J'en ai étudié quelques-uns. Je sais comment c'est fichu. Je vois les recettes. Mais bon, ça va prendre du temps et pendant ce temps-là, je ne peux pas faire ce qui me fait vraiment plaisir. Moi, je suis très content et très fier de ma bibliographie. Je suis très fier de ce que j'ai écrit et je suis très fier de ce sur quoi je suis en train de travailler. Et je ne cède pas aux modes, je ne cède pas aux tentations. Voilà.
En fait, on retrouve votre discours dans celui de Debussy.
Ah, mais complètement, moi je m'attache très fort à. Je trouve ça fort. Alors après, Debussy était là où il est très fort, c'est qu'il répond à beaucoup de commandes. Mais c'était un malin, parce qu'en fait, il faisait une œuvre qui avait du succès, qui marchait bien. On lui passait commande, en fait, et les gens qui lui passaient commande espéraient qu'il referait la même chose. Et lui, il prenait l'argent et faisait autre chose. C'est-à-dire que si vous regardez la discographie et si vous regardez les morceaux de Debussy, c'est extrêmement varié. Je veux dire, il aurait pu continuer sur des succès incroyables, des choses qui marchaient, qui savaient bien faire. Et non, il reçoit l'argent. Et c'est ça d'ailleurs le problème. Quand il fait Pélas et Mélisande, c'est un opéra qui a beaucoup de succès, qui marche très bien, encensé de partout. Et donc, que fait New York? Il lui commande un opéra sur la chute de la maison Usher. Lui, malin, il prend l'argent, mais ce qu'il ne veut pas faire, c'est refaire Pélias et Mélisande. Il veut refaire un autre opéra. Il veut que ça soit complètement différent. Et là, il n'y arrive pas. Mais en fait, c'est un artiste qui passe son temps à éviter de refaire la même chose pour plaire, à éviter d'être dans la répétition, parce que sans doute qu'il s'ennuie et parce qu'il a des choses à explorer.
Oui, écoutez, c'est pas pour rien que vous êtes tombé sur lui.
Oui, non, sans doute. Sans doute. Parce qu'en fait, moi, j'aimais beaucoup Debussy, mais je connaissais pas grand-chose de sa vie. Ça m'a vraiment passionné de découvrir qui il était. Là. Sa correspondance est magnifique. Ses écrits de Monsieur Croche, c'est absolument éblouissant. De liberté, de très, très grande liberté.
Alors aujourd'hui, finalement, quel est selon vous le pouvoir de la fiction, je dirais même plus de la littérature, dans le monde actuel?
Question assez vaste.
On a 3 heures.
On a trois heures, bon bah ça va alors. Question assez vaste et puis en même... Oui, c'est ça, moi je pense que ça peut nous sauver, je pense que la littérature aujourd'hui a ce pouvoir gigantesque et immense de nous permettre de comprendre le monde.
Même la fiction peut faire comprendre le monde.
Oui, même la fiction peut faire comprendre le monde. Même la fiction. Mais alors, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est pas une fiction qui dirait le monde directement. Je comprends le succès d'un livre comme le match du Kremlin, hein, dont tout le monde parle, qu'il a failli avoir le prix Goncourt, etc. Je pense que ça nous parle du monde directement, voilà. Mais moi, ce qui me passionne plus, ce qui a plus me passionné, c'est d'aller lire Proust, par exemple, pour comprendre le monde d'aujourd'hui, parce que le monde d'aujourd'hui fonctionne comme le microcosme chez Proust. C'est toujours des luttes de pouvoir, des volontés, et qui va se placer, qui va faire la petite blague qu'il faudra. Et finalement, vous regardez, j'ai envie de dire, un gouvernement belge ou français aujourd'hui, c'est du Proust. Chacun, il va de sa petite formule, de son petit mot, de son petit salon, etc. Et donc, la littérature, elle va m'intéresser plutôt de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on va voir chez Proust comment on peut penser le monde d'aujourd'hui.
Ouais.
Chez Balzac, le monde d'aujourd'hui.
Donc, ce que je veux dire, c'est que quand je parle de fiction, c'est que la fiction nous permet de rêver et d'entrer dans un autre monde, quoi.
C'est ça, c'est ça.
Oui, la fiction n'est pas du journalisme.
Tout à fait. La fiction n'est pas du journalisme. Mais voilà. Alors, il y a toute une littérature journalistique qui me paraît très intéressante. Hein. La non-fiction, par exemple, il y a des choses qui sont très, très bien. Mais je la trouve pas assez nourrissante. Je trouve qu'elle n'est pas assez porteuse. Je trouve qu'elle n'est pas assez englobante pour pouvoir répondre véritablement aux questions du monde d'aujourd'hui, comme peut le faire la littérature qui sait se démarquer en quelque sorte d'une actualité, d'une contemporanéité. Voilà, on va y arriver.
D'un présent,
merci.
Tu compliques toujours tout.
Oui, non, c'est ça, je suis désolé. D'un présent, pour pouvoir dire les choses.
Ok, ben écoute, désolé, mais pour conclure quand même, un peu beaucoup d'autopromotion. Pourquoi faut-il lire Au bord du lit d'Emmanuel Regnier?
Parce que c'est très bien. Parce que c'est très, très bien. Non, parce que... Pourquoi si j'étais encore libraire et que je devais vendre ce livre, je dirais parce qu'il nous propose une expérience. Mmh. Enfin, je pense que c'est ça que j'ai essayé de faire. Une expérience. Qu'est-ce que c'est qu'un corps malade? Qu'est-ce que c'est qu'un corps qui est habité par des fantômes? Voilà. Moi, je propose une expérience. Cette expérience, ensuite, on l'accepte, on l'accepte pas, on l'aime ou on l'aime pas. Mais voilà, je propose une expérience. Et je pense que ça fait partie des choses importantes. Voilà, la littérature, ce sont des expériences. Et donc, je propose une expérience de nouveau avec Au bord du lit, comme je propose une expérience là dans un petit livre qui vient de paraître, qui s'appelle La reconnaissance, publiée à l'Arbre à Parole, où aussi je propose l'expérience qu'est-ce que c'est qu'un joueur qui décide de suivre une femme? Qu'est-ce que c'est? Voilà.
Un joueur de casino.
D'accord. Un joueur de casino qui perd tout un soir, et puis une femme vient le voir et lui dit, voilà, suivez-moi, faisons le tour du monde ensemble. Faites le pari sur moi. Et il parie sur elle. Et donc voilà, je propose cette expérience-là. Bon, voilà, après on l'accepte, on ne l'accepte pas, on l'aime ou on ne l'aime pas. Mais donc voilà, c'est une bonne raison pour me lire.
Ok, mais écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier et on vous souhaite encore beaucoup jouer.
Merci à vous.